Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce second cours qui va nous emmener à nouveau dans l'exploration de nous-mêmes, l'introspection, la métacognition. Dans le premier cours, j'avais rapidement proposé quelques définitions de ce domaine, de l'introspection et de la métacognition. Je vous avais surtout présenté un historique de ces questions. On avait parlé des grands personnages qui ponctuent le parcours de la psychologie depuis Wundt, bien les critiques d'Auguste Comte, de Watson, les recherches plus récentes de Flavel, qui est un des pionniers de la métacognition. Et nous avions vu que l'une des grandes questions qui s'est posée pendant près de 50 ans et continue de se poser, c'est celle de la véracité de l'introspection. Est-ce que notre capacité d'introspection est illusoire? Est-ce que c'est une construction, une fiction, vous avez dit Lionel Nakache? Et dans quelles conditions est-ce qu'elle est en fait ajustée à la réalité de sorte qu'on peut faire confiance à notre introspection? Alors, ça va être la question du cours d'aujourd'hui. J'essaierai de vous montrer que, bien entendu, il y a des limites extrêmement sérieuses à l'introspection, qu'il y a toute une série d'exemples dans lesquels on peut montrer que l'introspection est complètement fausse, mais qu'on peut commencer à comprendre sur quoi elle se fonde et dans quelles conditions les indices sur lesquels l'introspection se fonde sont appropriés. Et nous verrons dans la fin du cours d'aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de situations où nous pouvons faire confiance à l'introspection jusque dans un grand détail dans le rapport du sujet sur ses processus psychologiques. Et alors, pour commencer, je voudrais citer un auteur contemporain américain, vous allez voir que c'est intéressant, un petit peu poétique aussi, qui nous fait une typologie des choses connues et des choses inconnues. C'est en anglais. « As we know, there are known knowns, there are things we know. We also know there are known unknowns, that is to say we know there are some things we don't know, but there are also unknown unknowns, the ones we don't know, we don't know. » Et l'auteur de ces lignes, vous le connaissez, c'est Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense américain en 2002, donc spécialiste de l'intelligence, n'est-ce pas? Et je trouve cette citation est intéressante. D'abord, elle oublie un des domaines, puisque la semaine dernière, je vous ai montré un tableau 2x2, donc il y a quatre cases. La case qui est oubliée, c'est celle des unknown knowns, c'est-à-dire des choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Or, cette citation date de 6 mois après le 11 septembre, et il semble qu'une partie, au moins, disons, du secrétariat à la Défense, certains départements avaient des informations, mais ne savaient pas qu'ils les savaient, l'ensemble du département ne savait pas qu'ils les savaient. D'autre part, et ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que, évidemment, ça fait peur. Si, d'après M. Rumsfeld, il y a des choses tellement secrètes qu'on ne sait même pas, qu'on ne les sait pas, évidemment, c'est assez terrifiant. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il nous dit lui-même qu'il... Bon, évidemment, on pense à la présence d'armes de destruction massive en Irak, mais le fait qu'il existe des choses tellement secrètes que lui-même ne savait pas qu'il ne les savait pas, il en est absolument certain. Donc, il est absolument certain de son ignorance. Et en l'occurrence, nous savons que non. C'est-à-dire qu'en fait, il ne savait pas qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas. Voilà. Et ça montre bien qu'on ne peut pas s'arrêter à un certain niveau et qu'il y a une capacité récursive dans l'introspection. Et la typologie de Rumsfeld, si on peut l'appeler comme ça, s'arrête au deuxième niveau, mais en réalité, le troisième niveau est pertinent aussi. Bon, je m'arrête sur ces plaisanteries, mais ça vous montre bien que le fait de savoir à quel moment nos connaissances sur nous-mêmes sont pertinentes ou pas n'est pas un problème trivial, même pour un organisme plus large que, comme celui du département de la Défense. Alors, revenons à des choses sérieuses. L'idée que nous disposons d'une introspection est-elle illusoire? Eh bien, nous allons voir dans le cours que les données sont en fait contradictoires et qu'on peut trouver des exemples dans lesquels les sujets montrent une cécité pratiquement totale aux mécanismes décisionnels, une incapacité de prédire leur propre performance dans un futur plus ou moins lointain, et d'autres exemples, au contraire, où les sujets ont une excellente capacité de rapporter ce qui se passe dans leur tête au moment où ils prennent une décision. Et nous essaierons de comprendre ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Mais je voudrais commencer donc par certains exemples classiques de cécité de l'introspection. Je vous ai présenté la semaine dernière l'exemple de la cécité au choix, c'est-à-dire une situation où la personne finit par décrire un choix qu'elle n'a pas fait par un tour de prestidigitation. Il y a beaucoup d'autres exemples. Alors Nisbet et Wilson, en 1977, en recensent toute une série. Je voudrais mentionner, à la suite de Lionel Nakache la semaine dernière, que certains syndromes neuropsychologiques sont typiquement des échecs de l'introspection des sujets d'une manière tellement massive que c'en est à peine croyable. Donc ici, je mentionne un article de Berti et collaborateurs dans Science en 2005 qui décrit les bases cérébrales de l'anosognosie pour l'hémiplégie. L'anosognosie pour l'hémiplégie, c'est cette situation tout à fait extraordinaire où une personne qui est hémiplégique, qui ne peut pas servir d'un bras, nie son déficit et prétend qu'elle peut tout à fait se mouvoir convenablement, qu'elle peut applaudir des deux mains, par exemple, qu'elle peut faire toutes sortes d'actions dont, en réalité, elle est bien incapable. Et c'est une chose qui n'est pas encore complètement expliquée. Alors, bien entendu, on pourrait lister aussi dans cette liste de cécité de l'introspection l'ensemble des traitements non conscients dont j'avais parlé il y a 2 ans dans le cours. Il est tout à fait clair que nous avons là une immense source de cécité de l'introspection, puisque par définition, ces phénomènes ne sont pas conscients. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut même arriver à des situations où l'imagerie cérébrale, je vous l'avais montré donc il y a 2 ans, peut être meilleure que le participant lui-même. C'est-à-dire que l'hétéroception, le fait de regarder directement dans le cerveau du sujet par imagerie, peut être meilleure que l'introspection. Et je cite ici 2 exemples récents intéressants. Le deuxième, peut-être le plus intéressant, celui de Soon et Haynes en 2008, dans lequel ils demandent à des sujets de faire un choix, essentiellement arbitraire, entre appuyer à main droite ou appuyer à main gauche. Et avec l'imagerie cérébrale, ils montrent de façon assez remarquable qu'il existe des activations dans le cortex préfrontal, dans l'aire 10 de Brodmann, qui permettent de prédire, mieux que le hasard, si une personne va appuyer avec la main droite ou avec la main gauche 10 secondes environ avant que l'action soit faite. Donc 10 secondes, c'est un temps extrêmement long et les sujets ne sont pas conscients d'avoir de tels déterminants partiels, statistiques, mais néanmoins réels, de leurs actions. Donc l'ensemble des traitements non conscients pourraient tomber dans cette case. Alors je voudrais vous montrer des exemples plus spécifiques et qui relèvent plus spécifiquement, au moins dans la classification de la littérature, de la métacognition. Et mon premier exemple sera celui de l'introspection que nous pouvons avoir de la résolution d'un problème. Lorsqu'on vous pose un problème difficile à résoudre, vous avez parfois le sentiment d'être proche de la solution. On dit « je suis chaud, je suis presque là, voilà, je vais trouver la solution ». Et la question, évidemment, se pose de savoir si ces introspections sont réelles ou pas. Et ça fait l'objet d'un article en 1986 de Janet Metcalfe, qui propose donc des problèmes alors relativement simples de logique à résoudre à ces sujets. L'un des problèmes, c'est celui je pense que vous le connaissez peut-être, des 4 chaînes de 3 anneaux. Vous avez des chaînes formées d'anneaux successifs, et en fait, vous avez 4 chaînes, 4 morceaux de chaînes, et chacune de ces petites chaînes comprend 3 anneaux qui sont soudés. Et la question, c'est combien est-ce que vous devriez dessouder et ressouder d'anneaux au minimum afin de former un cercle complet avec tous ces anneaux qui soient donc enchâssés les uns dans les autres sous forme d'un cercle. Bon, vous pouvez réfléchir à ce petit problème. Il faut essayer de trouver le nombre minimum d'anneaux à dessouder. Alors, pendant que vous réfléchissez, toutes les 10 secondes, le sujet ici dans cette expérience, on lui demande de noter sur une échelle de 0 à 10 le sentiment d'être plus ou moins chaud ou froid, d'être plus ou moins proche de la solution du problème. Et alors, ce qui est tout à fait amusant, donc on peut évidemment comparer ensuite les résultats suivant que le sujet a atteint la bonne solution ou n'a pas atteint la bonne solution. Il s'est satisfait d'une solution incorrecte. Peut-être vous avez trouvé la solution. Si vous avez trouvé 4 anneaux, ce n'est pas la bonne solution. Voilà. Mais peut-être vous avez le sentiment de l'avoir trouvé. La bonne solution, c'est 3 anneaux. Bon. Les résultats de cette expérience de psychologie, évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui sont présentés au sujet, les résultats montrent que non seulement le réchauffement mesuré par le sujet n'est pas une bonne indication de la solution des proches, mais la raison pour laquelle je cite cette expérience, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus le sujet pense être proche de la solution du problème, plus, en fait, il a de chances d'avoir la solution incorrecte au problème. On le voit dans cette table, on le voit peut-être mieux sous une forme graphique. Donc ici sur ce graphique, vous voyez que au moment de la réponse, conventionnellement, toutes les réponses sont 10, c'est-à-dire je pense avoir trouvé la bonne solution, et ceci que la solution soit correcte ou qu'elle soit incorrecte. Donc on a l'ensemble des réponses qui sont sur la barre à un jugement de 10. 10 secondes avant de trouver la solution, vous voyez la distribution des réponses. Eh bien, en fait, avant de trouver la solution correcte, la plupart des sujets disent « je n'ai aucune idée, je ne pense pas du tout être proche de la solution, je suis à 0 », alors que 10 secondes avant de donner une réponse incorrecte, la plupart des jugements sont beaucoup plus déplacés vers la droite Et vous voyez, on peut voir, on peut suivre la dynamique, 10 secondes avant, 20 secondes avant, 30 secondes avant, et on voit en fait que la découverte de la solution correcte est un processus tout ou rien dans cette situation. C'est-à-dire que soudainement, le sujet, ah, voilà, j'ai la solution, et ça semble être un processus non conscient, nous n'avons pas accès correct au fait d'être proche ou loin de la solution. Peut-être pour ce type de problème particulier, hein, qui demande une sorte d'astuce, une découverte. Et ça rappelle, bien entendu, les introspections et les rapports de Poincaré, d'Adamard, d'autres mathématiciens qui nous disent que la découverte mathématique fonctionne comme cela, on découvre soudainement la bonne solution, sans avoir conscience des opérations qui ont permis de la trouver. Il reste à expliquer pourquoi les sujets ont l'impression de se rapprocher de la solution, alors que, en fait, c'est dans la situation où ils vont tomber sur le problème, sur la solution incorrecte. Eh bien, ce qui est proposé par les auteurs, c'est que lorsqu'on a le sentiment d'une approche progressive de la solution, en fait, c'est parce qu'on est en train de se convaincre soi-même qu'il n'y a pas de meilleure solution. Donc, on a une introspection de cette recherche d'une solution et de l'acceptation progressive d'une solution qui n'est pas élégante, dont on voit bien qu'elle n'a pas l'air d'être parfaite, mais dont on se convainc progressivement que peut-être c'est quand même la bonne. Et de ce processus-là, nous avons une sorte d'introspection dans la mesure où nous faisons une série d'opérations de vérification. Bon, c'est une explication plausible. J'y reviendrai sur la fin du cours pour voir quel genre d'opérations sont accessibles à la conscience ou pas. Alors, je ne voudrais pas vous laisser avec l'impression que la métacognition est toujours totalement fausse, même si dans le cas qu'on vient de voir, elle est à l'inverse de la réalité. En général, ça n'est pas le cas. En général, la métacognition non seulement n'est pas totalement fausse, mais il y a une petite corrélation entre ce que rapportent les sujets, leur jugement de confiance ou leur jugement d'apprentissage, leur sentiment de savoir et la réalité. Cette corrélation n'est pas énorme, mais elle est en général positive. Il y a plusieurs exemples dans la littérature. Bon, un autre exemple classique, c'est celui du mot sur le bout de la langue. On vous pose une question, par exemple, quel est l'instrument de marine qui était utilisé dans la Grèce antique et par les Arabes pour relever la position des astres ? Bon, vous pouvez réfléchir, peut-être certains d'entre vous ont le bon mot, certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce que je raconte, et d'autres ont ce fameux état du mot sur le bout de la langue. Est-ce que ça correspond à quelque chose de réel ? Eh bien, on peut corréler les rapports subjectifs d'avoir le mot sur le bout de la langue avec la réalité. Est-ce que le sujet est capable de rapporter la bonne réponse ou pas, plutôt de reconnaître la bonne réponse ou pas lorsqu'on lui dit « le mot est peut-être astrolabe ». Et là, vous dites « ah oui, effectivement, c'est astrolabe ». Eh bien, la reconnaissance ultérieure du mot est meilleure lorsque le sujet dit être dans l'état « mot sur le bout de la langue » que lorsqu'il ne le dit pas, lorsqu'il pense n'avoir aucune idée. Autrement dit, l'état « mot sur le bout de la langue » est en partie un état authentique, prédictif de ce qui va se passer par la suite, la reconnaissance du mot. Même chose pour le sentiment de savoir, qui est utilisé beaucoup en métacognition. On demande à un sujet, lorsqu'il n'arrive pas à retrouver un objet de mémoire, de dire s'il serait capable de le reconnaître, et même éventuellement de le dire d'une façon quantitative, c'est-à-dire qu'on va lui demander sur une échelle en pourcentage quelle est la probabilité qu'il le retrouve correctement lorsqu'on va lui présenter ce mot parmi plusieurs choix possibles. Et l'expérience a été faite de nombreuses fois. La reconnaissance objective, qui est ici sur l'axe des Y, en fonction du sentiment subjectif et prospectif donné à l'avance, d'être capable par la suite de reconnaître le mot si on me le présentait, eh bien les deux sont étroitement corrélés en moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, lorsque vous avez le sentiment que le mot est proche, que vous pouvez peut-être le reconnaître si on vous le proposait, eh bien ce sentiment est plutôt juste. La corrélation est loin d'être très élevée, mais elle existe. Même chose pour d'autres situations dans lesquelles on demande au sujet, par exemple, des jugements de mémoire. Par exemple, dans cette situation ici qui est proposée par Gigerenzer, et c'est un article assez intéressant de Gigerenzer en 91 ici, eh bien, il demande à des sujets de faire des jugements de laquelle des deux villes en Allemagne est la plus peuplée. Donc il propose une cinquantaine de villes, il tire des paires au hasard, et il demande au sujet donc de faire ce jugement, mais aussi de juger à quel point ils ont l'impression de pouvoir donner une réponse correcte, avant qu'on leur donne bien entendu un feedback sur leur réponse. Donc ils jugent sur une échelle de confiance subjective, qui est dans l'axe des X ici, à quel point, pour chaque essai, à quel point ils vont être capables de répondre correctement. Et vous voyez qu'on leur propose plusieurs points sur cette échelle. L'un des points, c'est 50%, c'est-à-dire je réponds vraiment au hasard, j'ai l'impression de répondre au hasard. L'autre, c'est 100%, je suis absolument sûr de ma réponse. Et entre les deux, nous avons toute une gradation de réponses possibles. Et alors, ici, on voit qu'effectivement, la corrélation existe, c'est-à-dire que le sujet, essai par essai, est capable de dire qu'il a plus ou moins d'informations, ou plus ou moins de chances de se tromper. Mais il faut distinguer plusieurs variables. C'est-à-dire que dans l'étude de la métacognition, on distingue la calibration versus la précision relative. La précision relative peut être bonne dans la mesure où il existe une corrélation, mais vous voyez sur ces graphes ici, il y a plusieurs courbes, que certaines de ces courbes ne sont pas bien calibrées. C'est-à-dire que le sujet n'est pas sur la diagonale. Les réponses de sujet ne sont pas sur la diagonale, ce qui veut dire que la calibration est mauvaise et qu'on voit en fait une surestimation des compétences la plupart du temps. C'est-à-dire que vous voyez que par exemple le sujet ici dit « je suis 100% certain » et pourtant dans ses essais particuliers il n'est qu'à 75% de réponses correctes. Et parfois on voit aussi sur ces courbes une sous-estimation, c'est-à-dire que pour les essais les plus difficiles, ceux pour lesquels le sujet fait beaucoup d'erreurs, eh bien il dit qu'il est au hasard, alors qu'en fait, il fait quand même mieux que le hasard. Donc les courbes se croisent et la calibration n'est correcte ni à un extrême ni à l'autre extrême. Il faut que je vous dise un petit peu quelles sont les deux courbes ici, mais vous voyez que le problème est générique de toute façon. Hein. Mais Guy Kerenzer fait un point intéressant, c'est, il dit que c'est un peu trop facile d'obtenir des courbes mal calibrées, qui sont les courbes ici en bas, qui sont les courbes tout à fait extrêmes. Et il critique une partie de la littérature métacognitive en disant que les expérimentateurs, consciemment ou non, choisissent des problèmes qui sont particulièrement difficiles pour les sujets, voire qui sont contre-intuitifs, et dans lesquels les indices qui sont utilisés par les sujets, ne connaissant pas la réponse exacte, les conduisent plus souvent que le hasard à se tromper. Et donc c'est pour ça que cette courbe est si mal calibrée, et dans beaucoup de la littérature, effectivement, la critique s'applique. Et la courbe en noir, qui est donc la nouveauté qui est introduite par Guy Kerenzer, c'est une situation où vraiment l'échantillon des problèmes est représentatif des problèmes qui peuvent se poser, c'est-à-dire qu'on a tiré au hasard, parmi les paires de villes allemandes possibles, deux paires au hasard. Donc, vous voyez que Guy Kerenzer a raison d'introduire cette critique, c'est-à-dire une partie de la mauvaise calibration de l'introspection des sujets vient du fait qu'on leur pose des problèmes pièges. Néanmoins, ça n'explique pas tout, et il reste un aspect de mauvaise calibration avec surestimation des compétences élevées et sous-estimation pour les items mal maîtrisés. La sous-estimation des items mal maîtrisés, on l'a rencontré évidemment de nombreuses fois dans l'examen des compétences non conscientes. On a vu que dans un certain nombre de tâches, nous pouvions répondre mieux que le hasard, beaucoup mieux que le hasard parfois, avec une sorte de blind sight, hein, de réponse, de vision aveugle, alors que nous avons l'impression de répondre complètement au hasard. Donc ça rentre dans ce domaine de cette partie-ci de la courbe. Dans le domaine de la métacognition, vous le rencontrerez sous le terme de hard-easy effect, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, c'est l'effet difficile-facile, c'est-à-dire cette opposition entre les problèmes facile mais qu'on juge trop facile et sur lequel on surestime nos compétences et les problèmes difficiles sur lesquels on sous-estime au contraire nos compétences. Voilà, donc bien distinguer ces deux variables hein, de corrélation des réponses relatives des sujets versus calibration absolue des réponses qui est souvent très mauvaise. Alors peut-on calibrer ces jugements métacognitifs? On pourrait penser que le phénomène que nous montre Guy Kerenzer devrait être corrigeable. Nous devrions pouvoir corriger notre introspection en recevant du feedback sur nos réponses. Eh bien, les expériences montrent que ça n'est pas du tout le cas et que ce n'est pas du tout facile de calibrer les réponses métacognitives des sujets. Et là encore, il faut bien distinguer les deux variables. Je vous montre ici une expérience qui est due à Coriat en 2002. Vous voyez que c'est assez récent, hein, toutes ces expériences, dans lequel on entraîne successivement le sujet dans une tâche de mémoire et on voit que le rappel en mémoire augmente et en parallèle, ce qu'on appelle le judgment of learning, c'est-à-dire ce jugement subjectif donné à l'avance, est-ce que je vais me souvenir par la suite des problèmes, eh bien, il augmente également. Donc, les deux variables varient en parallèle et d'autre part, la précision relative des réponses augmentent, c'est-à-dire que si on regardait au sein de toutes ces réponses et au sein de toutes ces réponses, on verrait une forte corrélation entre et une corrélation qui augmente. Donc effectivement, on peut dire que la précision de l'introspection des sujets s'améliore un petit peu avec l'apprentissage. Néanmoins, vous voyez que si on mesure par contre en termes de biais, eh bien, les performances se dégradent. C'est-à-dire que les sujets ont un biais de plus en plus grand à juger, et en l'occurrence à sous-estimer leur performance de mémoire, alors qu'en principe, cette expérience aurait dû les calibrer d'une meilleure manière. Et cet effet de moindre confiance avec l'apprentissage est un effet que Coriat et ses collaborateurs répliquent dans de très nombreuses expériences. Apparemment, plus on s'entraîne, plus on sous-estime ses performances, qu'il y ait du feedback ou pas, dans toutes sortes de conditions expérimentales. C'est assez difficile donc de calibrer correctement les performances du sujet. C'est un phénomène qui, là encore, n'est pas complètement expliqué, à ma connaissance. Mais donc notre introspection n'est pas forcément calibrée dès le premier essai et n'est pas forcément calibrable avec l'apprentissage, en tout cas très imparfaitement. Alors, dans ces expériences, les expérimentateurs ont observé un phénomène nouveau, curieux, inattendu. C'est qu'il y a au moins une condition qui améliore considérablement notre jugement de mémorisation des essais, c'est-à-dire la situation où nous sommes capables de prédire que nous allons effectivement ou pas nous souvenir d'un item mémorisé. Et cette situation, c'est le délai. Alors, je vais vous expliquer comment cette expérience fonctionne. Mais le résultat fondamental, c'est qu'il est plus facile de juger si l'on a appris correctement une paire de mots après un certain délai que dans l'immédiat. Le fait d'introduire un délai améliore notre introspection. Alors comment cette expérience se passe ? Eh bien, il y a deux conditions qui sont comparées. Ce sont des expériences qui sont dues à Nelson et Donlowski. Et vous voyez qu'il y a deux conditions qui sont comparées. Dans tous les cas, on va demander au sujet d'apprendre des paires de mots. C'est une condition expérimentale qui est très souvent utilisée dans la littérature. On demande au sujet d'apprendre des traductions de mots. Vous voyez, par exemple, cerveau, brain. Bon, ici, c'est français-anglais. Et alors, dans la condition de gauche, après chaque paire, on demande au sujet d'étudier cette paire de mots, eh bien, on demande au sujet de faire un judgment of learning, c'est-à-dire d'essayer de prédire, sur une échelle de 0 à 100, quel va être son pourcentage de réussite pour cet essai. Et puis on passe à la paire suivante, et à nouveau on lui demande de faire un jugement. Et à la fin seulement, évidemment, on va tester sa performance réelle de mémoire, et on va regarder s'il y a une corrélation entre son jugement et sa performance réelle de mémoire. Dans la situation de droite, vous voyez qu'on réorganise les essais de sorte qu'il y a une phase d'étude ici, dans laquelle toutes les paires sont étudiées par les sujets, et ensuite seulement, on présente le premier mot de la paire, et on demande à la personne de décider pour ce mot-là quelle est la probabilité qu'elle se souvienne de la traduction qui lui est associée. Eh bien, ça fait une différence absolument phénoménale. Dans la condition de gauche, il y a une corrélation très modeste entre les jugements introspectifs des sujets et la performance réelle. Autrement dit, les sujets n'ont pas une très bonne introspection des items sur lesquels ils vont échouer ou réussir, alors que dans la condition de droite, l'introspection devient absolument excellente. Vous voyez, près de 90% de corrélation, enfin un coefficient de corrélation de 0,90, pardon. Et ça indique donc que le fait d'introduire ce délai a permis d'obtenir une corrélation très importante, une capacité d'introspection beaucoup plus importante de la part du sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience ? D'abord, le phénomène est très réplicable, c'est vraiment devenu un des phénomènes phares, je dirais, de la métacognition. Et bien, l'explication la plus simple, c'est peut-être tout simplement que le sujet essaye de récupérer l'information en mémoire et, dans la situation avec le délai, fonde sa réponse métacognitive sur le succès ou l'échec de cette tentative de récupération en mémoire. Si je reviens à la situation expérimentale, vous voyez que dans cette situation ici, plutôt commençons par la situation de gauche. Lorsque vous venez d'étudier la paire cerveau-brain, on vous montre cerveau, vous savez que la réponse est brain, vous n'avez pas d'effort de mémoire particulier à faire, vous essayez de vous en souvenir. Dans la situation de droite, il y a déjà eu un certain délai, et donc au moment où on vous présente cerveau, d'une certaine manière, cette présentation constitue en soi un challenge pour votre mémoire. Vous allez essayer de retrouver le mot, et ce que proposent Donlowski et collaborateurs, Nelson et Donlowski, c'est que c'est vraiment l'effort même d'essayer de se souvenir en mémoire qui conduit au jugement introspectif. À court délai, donc, on n'aurait pas besoin de faire cet effort de mémoire. La présence de l'information en mémoire en court terme bloquerait, empêcherait d'évaluer sa propre mémoire. Alors, il y a une prédiction extrêmement simple de cette hypothèse, et elle est mise à l'épreuve par Nenzel et Dolnowski, c'est que si on présentait au cours de la phase de test la paire de mots, et non pas le premier mot seul, eh bien, la différence et cet effet de délai devraient disparaître, parce que le sujet n'a plus à faire un effort de mémoire. Le mot associé est directement dans sa mémoire de travail, et dans ce cas-là, il ne doit pas pouvoir améliorer son introspection par son propre effort de mémoire. Donc, les auteurs réalisent cette expérience, et vous voyez que ici, on voit donc la performance des sujets, et ce sont des courbes cumulatives qui nous montrent le pourcentage de sujets qui atteignent un certain niveau de performance introspective. Donc, le coefficient moyen de tout à l'heure, 0,9, est ici. Vous voyez que 60% des sujets atteignent ce niveau de 0,9, qui est très élevé, donc une excellente performance introspective dans la condition où il y a un délai et où on ne présente que le premier mot de la paire, l'indice. Dès qu'on présente les deux mots de la paire, même avec un délai, eh bien, les performances s'effondrent complètement, ce qui correspond bien à l'idée que le sujet n'a plus à faire d'effort de mémoire et donc perd cette calibration de l'introspection. Donc, dans une certaine mesure, ici, la calibration de l'introspection correspond simplement au fait que le sujet essaye, à l'instant même, de récupérer en mémoire. S'il y parvient, il dit « je vais y arriver par la suite ». S'il n'y parvient pas, il dit « je ne vais pas y arriver par la suite ». Et effectivement, c'est un excellent prédicteur dans la mesure où le rappel maintenant va être un bon prédicteur du rappel plus tard. Il y a toutefois une deuxième explication qui n'est pas nécessairement incompatible, hein, de ces résultats, qui est que le fait même de tester les sujets en leur proposant le premier mot et en leur demandant leur introspection sur le rappel du second, eh bien, le fait même de les tester correspond peut-être à ce qu'on appellerait en anglais une self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que c'est une prédiction qui se réalise elle-même. En testant les sujets, on facilite la mémoire. Alors, c'est une deuxième hypothèse alternative qui est présentée comme telle dans la littérature. Moi, je ne crois pas qu'elle soit exclusive de l'autre hypothèse, et je voudrais consacrer les trois prochaines diapos à vous montrer effectivement que le fait de se tester non seulement améliore son introspection, mais améliore également sa mémoire, et que ce phénomène n'est pas du tout trivial dans la mesure où les sujets n'en sont pas conscients, n'en ont pas une très bonne introspection. Ce sont des expériences qui nous ont été présentées l'an dernier dans le séminaire par Henri Rödiger, collaborateur, qui était venu de Saint-Louis pour nous parler de ces expériences. Vaut-il mieux étudier ou vaut-il mieux se tester ? La plupart des expériences de mémoire consistent en une alternance de moments d'études, study, et de test, études, test. Mais dans cette alternance, on considère que le test est une simple mesure de l'évolution de l'apprentissage, alors que c'est la période d'études, évidemment, qui permet de mettre les objets en mémoire. Eh bien, Zarombe et Rödiger mettent en question cette idée extrêmement simple, et ils manipulent le nombre de périodes d'études et de tests. Alors, dans leur expérience initiale, ils proposent toujours la même quantité totale d'apprentissage, la même durée, vous voyez, mais dans la période qui devrait être la plus appropriée pour apprendre, il y a 8 périodes d'études. Dans la situation intermédiaire, il y a 6 périodes d'études et 2 tests. Et dans la période, dans la situation du haut, vous voyez qu'il y a une alternance de périodes d'études, de périodes de tests, de périodes d'études, de périodes de tests. Alors on pourrait penser que plus on enlève de périodes d'études, moins le sujet va apprendre convenablement à mémoriser la liste de mots, de traductions qu'on lui propose. Et en fait, pendant l'apprentissage, les résultats sont exactement similaires. Donc vous voyez ici les résultats des tests. Alors évidemment, ici il n'y a pas de test pendant la période d'apprentissage, mais ici il y a 2 tests qui sont en bleu. Et dans la situation d'en haut, il y a 4 tests qui sont en vert. Vous voyez que l'évolution des performances à ces tests est exactement la même au fil du temps. Donc ça ne fait pas de différence pendant la période d'apprentissage. Mais le résultat frappant de Zarong et Rödiger, c'est que 48 heures plus tard, si on teste la mémoire des sujets, c'est le nombre de tests qui compte et pas le temps d'étude. Ça, c'est assez remarquable. On ne veut pas dire qu'il faut avoir zéro temps d'étude, mais dans cette situation, vous voyez que les performances de rappel décroissent en fonction du nombre de périodes d'études, et donc, si on les réordonnait, croissent en fonction du nombre de tests qui ont été proposés au sujet. Autrement dit, il y a un apprentissage qui se produit au moment du test. Et les auteurs réalisent toute une série d'études pour bien comprendre ce phénomène. Alors, une des études intéressantes, une des variables intéressantes qu'il manipule, c'est est-ce qu'il faut tester les items qu'on a l'impression de savoir déjà ? Donc, on pourrait penser qu'on peut gagner du temps en ne présentant à l'étude des sujets que les items pour lesquels ils ont des performances qui ne sont pas satisfaisantes. C'est une situation très naturelle et je pense que si certains d'entre vous sont enseignants, il est assez naturel de penser qu'on va présenter à la classe uniquement les choses nouvelles qu'elle ne sait pas encore et on ne va pas représenter les choses anciennes qu'apparemment elle sait puisqu'elle a réussi le test. Eh bien, Rödiger et collaborateurs, je trouve, font un travail assez remarquable parce qu'ils mettent en question toutes ces choses que nous considérons comme acquises. Et donc là, ils font une expérience extrêmement simple dans laquelle, vous voyez, on compare deux groupes de sujets. Un groupe qui a l'apprentissage drop-out, c'est-à-dire qu'on enlève progressivement de la liste d'apprentissage les items qui sont sus par les sujets, pour lesquels ils ont réussi le test. Et le groupe dit standard, dans lequel tout simplement on présente la même liste de 40 items, quelles que soient les performances du sujet, et ce de façon répétée. Voyez. Alors au cours de l'apprentissage, eh bien, on voit qu'il y a un avantage à l'apprentissage drop-out, c'est-à-dire qu'effectivement l'apprentissage atteint la perfection, 100% de réponses correctes, lorsqu'on focalise l'apprentissage sur les items qui ne sont pas connus du sujet. Par contre, après une semaine, les résultats s'inversent complètement. Et ça, c'est très frappant. Ce sont les personnes du groupe qui a étudié de façon répétée tous les items, y compris ceux qu'ils pensaient savoir et dont les tests montraient qu'ils les savaient à un instant donné, qui ont les meilleurs résultats après une certaine phase d'oubli. Autrement dit, ce qui nous préserve de l'oubli, c'est le fait d'avoir d'une certaine manière surétudié les items. Et il ne faut pas négliger le surapprentissage. Alors, dans l'expérience critique, qui est un article de Science tout récent, hein, 2008, eh bien, les auteurs combinent les deux variables et nous montrent le rôle tout à fait crucial de se tester et de se tester sur l'ensemble des choses étudiées. Donc, ils ont à nouveau une liste de 40 mots dont il faut apprendre les traductions en swahili. Donc, c'est clair que c'est quelque chose de nouveau pour les sujets. Et ils ont quatre groupes. Donc, le groupe qui étudie tout et qui teste tout, et on alterne les périodes d'études et de tests. Le groupe qui étudie tout, mais on ne teste que les items dont il ne se souvenait pas au test précédent, donc progressivement, il y a de moins en moins d'items qui sont testés. Le groupe qui étudie uniquement les items dont le test a échoué, mais qui on teste tous les items, et le groupe qui étudie seulement les items pour lesquels il a échoué au test et qui ne teste également que les items pour lesquels on n'avait pas réussi au test précédent. Donc, progressivement, il y a de moins en moins de mots qui sont étudiés de plus en plus fortement. Eh bien, au cours de l'apprentissage, à nouveau, les performances sont rigoureusement identiques. Donc, tous ces groupes évoluent de la même manière. Il y a en réalité quatre alternances d'études et de tests et donc on voit l'évolution au fil de ces quatre alternances. Ici, vous voyez que tous les groupes progressent de la même manière. Par contre, alors, c'est intéressant aussi, parce que je reviens à la métacognition, quand même, quelle est la prédiction des sujets ? Ben, on demande aux sujets ces fameux judgment of learning, leur introspection sur ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont se souvenir des items, et dans tous les groupes, les prédictions des sujets sont les mêmes. Je vais me souvenir d'environ 20 mots, à peu près 50%. Il y a des variations d'un sujet à l'autre, et elles sont en partie corrélées apparemment aux performances, mais les sujets donnent le même niveau moyen de calibration aux alentours de 50% de mémoire. Et ils se trompent massivement, puisque dans le groupe qui a été testé sur l'ensemble des items, il y a à peu près 80% de rappels plus tard, une semaine plus tard, alors que dans le groupe qui n'a été testé que sur les items qu'il ne savait pas à un instant donné, eh bien, vous voyez que les performances sont dramatiquement moins bonnes. Et le phénomène ne dépend que de ce qui a été présenté au cours du test. Donc c'est bien le test lui-même qui compte. C'est le fait de se tester, y compris sur des items qu'on croyait savoir, mais dont on découvre que peut-être il fallait les consolider, qui améliore considérablement la situation d'apprentissage. Donc, c'est une longue digression pour vous dire que notre connaissance de notre propre mémoire n'est pas très bonne, que notre connaissance des conditions dans lesquelles nous pouvons améliorer notre mémoire n'est pas très bonne, que notre introspection de ce sujet est extrêmement mauvaise et qu'il faut expérimenter, bien entendu, pour connaître les meilleures conditions d'éducation et qu'on ne peut pas se fier à l'introspection des sujets et on ne peut pas se fier non plus sur un seul test. Il faut surétudier pour améliorer sa mémoire. Alors, dans des études ultérieures, Karpik et collaborateurs, toujours avec Rödiger, montrent que les étudiants ne pensent pas. à cela. Autrement dit, c'est vraiment une forme d'illusion cognitive. Nous n'avons pas une bonne introspection du rôle des tests et de l'importance cruciale des tests dans la mémorisation. Donc, j'en profite pour mentionner donc, une diapositive pour vraiment enfoncer le clou en disant que la métacognition joue probablement un rôle extrêmement important dans l'éducation et dans l'auto-éducation. Et c'est quelque chose évidemment qui est discuté dans le domaine des politiques éducatives, mais peut-être pas toujours sur une base scientifique de psychologie expérimentale. La représentation par l'élève des connaissances qu'il possède et de la façon dont il peut les améliorer pourrait être un élément essentiel de l'éducation dans la mesure où ça permet à l'élève de se demander comment as-tu fait pour comprendre, qu'est-ce que tu ne sais pas, comment peux-tu trouver l'information pertinente, comment peux-tu faire pour apprendre mieux. Et toutes ces questions ne sont pas triviales, elles demandent à être calibrées, elles demandent à être améliorées au fil du temps, et l'apprenant ne connaît pas toujours bien son propre fonctionnement. Alors ici, j'ai donc deux phrases tirées de l'article de Zarombe et Rodiger. Les étudiants ignorent les facteurs qui affectent leur propre apprentissage, ce qui a des implications importantes pour l'éducation. Rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, parce qu'on reteste des items et peut-être plus aussi ennuyeuse d'une certaine manière pour le sujet, ce qui oblige les sujets à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. Je pense que ce type d'expérimentation est absolument crucial pour améliorer d'une part, bien entendu, notre introspection, mais aussi tout simplement la mémorisation finale, puisque à la fin, le résultat primaire de l'expérience de Rodiger, c'est quand même un différentiel extraordinaire de réussite, d'objectif dans le test de mémoire. Alors, comment fonctionne le jugement métacognitif prospectif ? On a vu un certain nombre d'exemples dans lesquels il y avait une corrélation réelle, modeste, mais néanmoins réelle, entre l'introspection et la réalité. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, il y a diverses théories qui ont été examinées successivement dans la littérature. Une première théorie, on vient de voir un exemple où c'est peut-être le cas, c'est que le sujet essaye tout simplement de retrouver l'information en mémoire. Lorsqu'il la retrouve facilement, rapidement, il dit « je vais m'en souvenir facilement ». Lorsqu'il ne la retrouve pas, il dit « je ne m'en souviens pas ». Bon, c'est une vision extraordinairement simpliste et on voit bien qu'elle ne fonctionne pas puisqu'il y a un certain nombre d'exemples comme le mot sur le bout de la langue, où vous êtes incapable pendant une durée prolongée de retrouver l'information, et pourtant, vous avez une introspection correcte que vous sauriez la reconnaître. Donc il y a une introspection qui dépasse la capacité de retrouver les choses en mémoire. Alors différents arguments expérimentaux valident ce point de vue. Par exemple, Roder, en 87, montre que la réponse au sentiment de savoir peut être extraordinairement rapide, est beaucoup plus rapide que la récupération explicite de l'information en mémoire. Donc le sentiment de savoir est un jugement efficace et qui peut au contraire guider nos stratégies de récupération en mémoire. L'ordre des opérations n'est pas que l'on récupère d'abord en mémoire et qu'on fait le jugement ensuite. Le même argument est fait par Son et Metcalf en 2005. Il montre qu'il y a un temps de réaction extrêmement rapide, y compris dans la catégorie de jugement la plus basse, où on sait qu'on ne sait pas. Donc on peut savoir très rapidement qu'on ne sait pas. Alors, la théorie qui émerge actuellement, c'est que nous utilisons pour notre introspection ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des stratégies qui fournissent une solution rapide, mais pas nécessairement optimale et parfois très fausse, à un problème posé. Et les heuristiques qui sont discutées dans la littérature expliquent, dans une certaine mesure, pourquoi le jugement métacognitif apparaît mal calibré. Ça, c'est l'argument de Gigerenzer en 1991, et je vous renvoie à cet article. Alors, deux heuristiques sont discutées dans la littérature. La première, c'est une évaluation de la familiarité du problème. Si le problème me paraît familier, je vais dire que j'ai une compétence métacognitive et que je vais être capable de le résoudre ou de m'en souvenir. Le rôle de la familiarité a été testé tout à fait directement par Lynn Rader, qui est une chercheuse de Carnegie Mellon, qui a travaillé très longuement sur ces questions. Et je vous présente une de ses expériences ici, en détail. Dans cette expérience, on va demander au sujet s'il est capable de se souvenir, dans une mémoire rapide, de la solution d'un problème arithmétique. Donc, le problème arithmétique apparaît sur l'écran, par exemple 17 x 23, il va être présenté de façon répétée. Et on demande immédiatement au sujet, dans un intervalle de 850 millisecondes, d'appuyer sur une touche pour dire « je suis capable de m'en souvenir » ou « je dois le calculer ». Alors on incite le sujet à essayer de le récupérer en mémoire parce que s'il y arrive, dans un intervalle de 1 seconde, il gagnera 50 points. Si par contre il choisit la route du calcul, il dispose de 18 secondes pour faire le calcul, et il ne gagnera à la fin que 5 points. Donc les sujets sont incités à essayer de retrouver l'information en mémoire, mais ils sont incités aussi à faire une réponse introspective la plus correcte possible. Est-ce que je suis capable de récupérer l'information en mémoire ou pas ? Et ce qui est manipulé par les expérimentateurs, c'est la fréquence des problèmes. Certains problèmes, comme 17 x 23, vont être présentés très fréquemment, donc le sujet va devenir familier avec ces problèmes-là, et d'autres problèmes sont présentés une seule fois ou deux fois au cours de l'expérience. Ensuite, il y a une phase de test, et on regarde quelle est la mémoire des sujets pour ces problèmes, et également pour des problèmes nouveaux. Alors, le résultat qui est intéressant ici, c'est que d'une part, les sujets ont un jugement correct. Ici, vous voyez la fréquence avec laquelle les problèmes sont présentés et le nombre de fois où le sujet a tenté de récupérer l'information en mémoire. Et on voit que dans la courbe qui est en triangle plein, les sujets jugent effectivement correctement que des problèmes qui ont été présentés une seule fois, ils ne sont pas capables de la récupérer en mémoire. Des problèmes qui ont été présentés 3 fois ou 8 fois ou un peu plus souvent encore, eh bien, le sujet juge de plus en plus souvent qu'il est capable de le récupérer en mémoire. Et ce jugement est correct, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le jugement du sujet et la réalité. Donc, la fréquence de présentation des problèmes fait varier de façon parallèle les réponses subjectives des sujets et les réponses objectives de mémoire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avec les triangles creux, qui sont des problèmes qui n'ont jamais été présentés auparavant, où on remplace la multiplication par une addition. Donc au lieu de voir 17 fois 23, vous voyez 17 plus 23. Et vous avez très peu de temps pour juger si vous êtes capable de vous en souvenir ou pas. Eh bien, c'est assez naturel, ce résultat, c'est les sujets jugent que la familiarité du problème va leur permettre, est un indice qui leur fait comprendre qu'ils vont pouvoir récupérer l'information en mémoire. Mais cette fois-ci, l'indice est faux. Donc vous voyez que le sujet, en fonction de la fréquence de présentation des problèmes de multiplication, juge que les problèmes d'addition, il va être capable de récupérer l'information en mémoire. C'est une preuve directe qui se fonde sur cet indice de familiarité du problème, mais malheureusement, dans ces conditions particulières, c'est un indice qui est faux. Et donc, on voit que les sujets tentent de récupérer l'information à 58% des essais qui ressemblent au problème de départ, alors qu'ils ne font cela que 10% du temps pour des multiplications complètement nouvelles, comme 29 x 17, qui n'auraient jamais été présentées auparavant. Donc, une démonstration expérimentale relativement simple, pas très surprenante, mais qui nous montre que la familiarité du problème, et il y a d'autres démonstrations hein, dans d'autres conditions, dans lesquelles on voit que la familiarité du problème peut être un des indices les plus importants. Deuxième indice qui est utilisé par les sujets, deuxième heuristique, c'est l'accessibilité en mémoire de fragments de souvenirs. Lorsque vous êtes dans le phénomène, dans l'état du mot sur le bout de la langue, introspectivement peut-être, ce qui vous fait penser que vous avez le mot tout proche, c'est que vous avez le sentiment d'avoir des fragments de connaissances. Vous n'avez peut-être pas le nom de la personne, par exemple, mais vous savez où elle habite. Vous savez quand est-ce que vous l'avez rencontrée pour la dernière fois. Vous savez quel métier elle fait. Et le nom vous échappe, mais tous ces éléments d'information que vous avez ou que vous croyez avoir à votre disposition contribuent au sentiment d'avoir le mot sur le bout de la langue. En tout cas, c'est la théorie qui est proposée par Coriat et ses collaborateurs en 1993. Alors, ils utilisent le mot d'accessibilité. Ce n'est pas un très joli mot, mais je crois que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, plus j'ai de fragments d'informations disponibles dans ma mémoire, ou apparemment disponibles, plus je vais juger introspectivement que cette information est effectivement dans ma mémoire. Donc le sentiment de savoir augmenterait, selon Coriat, de façon monotone avec l'accessibilité des informations. Alors comment tester cette idée ? Eh bien, l'expérience de Coriat est assez intéressante. Il va essayer de mesurer les fragments d'informations qui sont disponibles au sujet. Pour ce faire, il présente une série de 4 consonnes à mémoriser. À chaque essai, vous recevez 4 consonnes, par exemple un F, K, D, R. Vous devez les mémoriser. On vous distrait pendant une période d'une 20aine de secondes avec une autre tâche. Et au bout de cette 20aine de secondes, on vous demande d'essayer de récupérer le maximum d'informations. Donc, le maximum de lettres. Alors, c'est ça qui va permettre de mesurer les fragments d'informations dont dispose le sujet. On va lui demander de rapporter toutes les lettres dont il croit se souvenir, mais avec une pénalité pour qu'il ne rapporte pas trop de lettres, pour qu'il n'essaie pas de deviner. Donc s'il y a des lettres fausses, il aura une pénalité dans le nombre de points qu'il reçoit à la fin. Et ensuite, on lui demande un jugement de sentiment de savoir, c'est-à-dire le sentiment qui serait capable de reconnaître le mot, plutôt la chaîne de caractères, lorsqu'on la lui présente par la suite. Et enfin, on fait un jugement de reconnaissance parmi 8 chaînes de caractères possibles, laquelle était celle que vous aviez dû mémoriser. Donc on va corréler le sentiment de savoir, comme d'habitude, avec la reconnaissance effective de la chaîne de caractères parmi les 8 chaînes proposées. En fait, la corrélation, c'est le graphe que je vous ai présenté en début de cette conférence qui vous montrait qu'il y a parfois une très bonne corrélation, en moyenne, entre le sentiment de savoir et le jugement de reconnaissance. Mais ce qui est intéressant ici, c'est comment le jugement de sentiment de savoir est peut-être prédit, peut-être corrélé avec les fragments de connaissances, les fragments de lettres dont se souvient le sujet dans cette période. D'après Coriat, plus on a accès à des fragments de lettres, plus le jugement de sentiment de savoir doit être élevé. Et c'est exactement ce qui est trouvé comme résultat. Ici, vous avez donc la moyenne du sentiment de savoir, feeling of knowing, qui peut aller entre 0 et 100%. Ici, c'est une prédiction sur la tâche de reconnaissance future. Donc, c'est en pourcentage prédit. Et vous voyez, les différentes courbes ici correspondent au nombre de lettres que le sujet a rapporté correctement durant cette période. Vous voyez que le nombre de lettres que le sujet rapporte correctement est un bon prédicteur du sentiment de savoir. En particulier, il y a ce point ici où le sujet a rapporté correctement les 4 lettres, et lorsqu'il a rapporté correctement les 4 lettres, eh bien, il a un sentiment de savoir de l'ordre de 90% ici. Lorsqu'il en a rapporté 3, il est aux alentours de 80. Lorsqu'il en a rapporté 2, il est aux alentours de 60 en moyenne. Vous voyez que c'est assez naturel. Plus je suis capable de réaliser cette tâche mais sans avoir de feedback, de donner un certain nombre de lettres correctes, plus mon sentiment de savoir est élevé. Mais alors, ce qui réellement valide la théorie de Coriat, c'est la deuxième variable, celle qui est à l'intérieur de chacune de ces courbes ici, qui est le nombre de lettres incorrectes. Wrong, ici c'est le W sur l'axe des X ici, c'est le nombre de lettres incorrectes qui est rapporté par le sujet. Et là on voit un phénomène tout à fait paradoxal et amusant, c'est que plus le sujet rapporte de lettres incorrectes, en plus des lettres correctes qu'il a rapportées, plus son sentiment de savoir est grand. Donc c'est évidemment une erreur métacognitive à nouveau, mais ça correspond bien à ce qui doit se passer dans cette situation. On ne rapporte des lettres que si on a confiance dans sa réponse, et même lorsque ces lettres sont incorrectes, le nombre de lettres qui est rapporté contribue à notre sentiment de confiance dans la réponse et donc contribue à notre sentiment introspectif. Donc on voit à l'intérieur de chacune de ces courbes l'effet du nombre de lettres incorrectes rapportées par le sujet. Il y a cette situation évidemment extrême où le sujet rapporte 4 lettres toutes incorrectes et il dit qu'il a un sentiment de savoir évidemment extrêmement élevé, 90%, c'est totalement faux évidemment. Donc, deux indices, on vient de voir, l'accessibilité des informations en mémoire et la familiarité du problème qui nous est présenté, qui contribuent à ce sentiment de savoir à défaut d'autre chose. Pourquoi est-ce que c'est à défaut d'autre chose? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas une meilleure introspection? Eh bien, je voudrais vous rappeler simplement ce tableau que je vous avais présenté dans le premier cours, qui est celui de Erickson et Simon, qui essayait de déterminer les conditions dans lesquelles nous allions pouvoir avoir une description verbale, une introspection verbale correcte de nos processus cognitifs. Vous vous souvenez que Erickson et Simon distinguaient deux paramètres, le moment de la verbalisation, est-ce que c'est pendant qu'on est en train de traiter l'information, est-ce que c'est pendant que l'information est dans la mémoire de travail, ou bien est-ce que c'est après la fin de la tâche, éventuellement bien après. C'est dommage, Erickson et Simon n'incluent pas également la situation prospective qui peut être avant. Dans un certain nombre de situations métacognitives, on fait le jugement avant même d'essayer de se souvenir, par exemple, dans ces situations de mémoire. Mais enfin, on voit bien l'idée ici d'Erickson et Simon, c'est que l'important, c'est est-ce que c'est immédiat, pendant que l'information est dans le système, ou bien est-ce que c'est un jugement différé ou prospectif. Le deuxième axe ici, c'est la relation entre l'information à laquelle on fait attention, et l'information qu'on doit verbaliser. Et effectivement, si on doit verbaliser, comme c'est le cas dans beaucoup de ces tâches métacognitives, quelque chose d'hypothétique, quelque chose de général, quelque chose qui est une moyenne estimée de fréquence de réponse correcte, quelque chose qui est donc très indirect par rapport à la tâche qu'on réalise réellement, eh bien, Erickson et Simon prédisent que toutes ces situations ici, où le jugement est différé, où il est prospectif, donc il n'est pas immédiat, et où le jugement qu'on demande au sujet n'est pas directement lié à ces processus élémentaires qui sont en train de se dérouler dans sa tête, eh bien, il n'est pas surprenant que le sujet n'ait pas un bon accès verbal à donc, ces processus cognitifs. La prédiction d'Erickson et Simon dans ce modèle, c'est que seul le contenu de la mémoire de travail va être disponible au rapport verbal du sujet. Et c'est donc la case qui est ici, en haut à gauche, c'est quand l'information est attendue, quand elle est dans la mémoire de travail. À ce moment-là, si on a une relation directe entre ce qui est la question qui est posée au sujet et ce qui est dans notre mémoire de travail, il va y avoir une excellente introspection, un excellent rapport verbal. Dans tous les autres cas, il va y avoir un processus de reconstruction indirecte, fondé sur des heuristiques, fondé sur des stratégies, comme on l'a vu, et donc qui peut être très écarté de la réalité, et, ou alors modestement corrélé avec la réalité. Donc dans la dernière partie du cours, dans le dernier quart d'heure, je vais me concentrer sur cette case et on va voir quelques exemples très rapidement de situations où l'introspection est bonne, effectivement, et elle est bonne parce qu'on demande au sujet ce qui est en train de se passer ou ce qui vient de se passer dans sa mémoire de travail. Alors, un premier exemple qui est assez ancien, au tout début des études de métacognitive, Kroll et Kellicott, en 1972, étudient le rappel en mémoire à court terme en fonction de la quantité de répétition qui est faite par les sujets. Donc, ils proposent toute une série de tâches qui demandent de mémoriser des triplets de lettres et ils mesurent la capacité de rappel en mémoire après un délai pendant lequel le sujet a été distrait avec une autre tâche. Mais ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'ils ne demandent pas au sujet de prédire quel va être le pourcentage de réussite à la tâche de mémoire après un délai. Ils demandent au sujet quelque chose de beaucoup plus concret qui est, à cet essai, étant donné que vous avez été distrait, essayez d'estimer combien de fois vous avez eu la possibilité de vous répéter mentalement le triplet de lettres. Vous voyez que ça, c'est une information qui est quelque part beaucoup plus directement reliée à ce que les personnes ont potentiellement dans la mémoire de travail. Combien de fois on a pu se répéter l'information? Et c'est un rapport purement subjectif qui est mis donc à nouveau ici sur l'axe des X de ce graphe. Donc il peut y avoir entre 0 et 6 possibilités de répétition. Chacune des courbes correspond à une expérience différente dans laquelle la tâche de distraction est différente. Donc vous voyez que le phénomène est éminemment réplicable. Le pourcentage de rappel objectif, donc la mémorisation objective des stimuli, est extrêmement bien prédite par un rapport subjectif, le nombre de fois où j'ai pu me répéter l'information mentalement. Donc ici, on a l'impression que ce que rapporte le sujet est précieux. Il est très étroitement corrélé à sa capacité ultérieure de mémorisation et il est peut-être précieux précisément pour les raisons qu'Erickson et Simon rapportent, c'est-à-dire qu'on demande au sujet quelque chose qui s'est passé immédiatement auparavant et quelque chose qui est directement en relation avec les opérations dans leur mémoire de travail. Et dans cette série d'études de Kroll et Kellicott, eh bien, on voit que le rapport subjectif est le meilleur prédicteur de la mémorisation ultérieure, ce qui est quand même très intéressant. Ça veut dire que dans un certain nombre de cas, le rapport subjectif est un objet tout à fait précieux pour le psychologue. Alors, je vais terminer en mentionnant une série d'expériences qui ont été menées avec Jérôme Sacur, Mariano Sigman et un élève de Mariano, Coralio, sur l'introspection quantitative. Est-ce qu'on peut aller au-delà de cette introspection, par exemple, du nombre de répétitions, et avoir une introspection directe du temps passé, donc pas seulement du nombre ou de la qualité des opérations, mais du temps passé à certaines étapes des opérations cognitives. Si l'idée d'Erickson et Simon est correcte, on devrait avoir une introspection correcte du temps passé occupé mentalement en mémoire de travail par une certaine tâche. Et nous étions partis également du modèle de l'espace de travail neuronal global que je vous avais présenté l'année dernière, qui fait la prédiction que toutes les informations qui sont présentes dans l'espace de travail global, donc cet espace central qui permet de partager les informations entre processeurs, et bien toutes ces informations vont être rapportables par le sujet, ce sont des informations conscientes. Alors, pour tester cette idée, sur une idée donc de Jérôme Sacur, nous avons demandé au sujet de dire à chaque essai combien de temps précisément ils avaient mis à répondre, à prendre leur décision. Et c'est une idée intéressante. Toute la psychologie pendant 100 ans, 150 ans, s'est fondée sur, très largement sur la mesure du temps de réaction des sujets. C'est vraiment un paramètre essentiel de la psychologie expérimentale. L'idée un petit peu nouvelle ici, c'est qu'à côté du temps de réaction objectif, on peut demander au sujet un temps de réaction subjectif ou introspectif et comparer ce que le sujet introspecte avec la réalité objective à un essai donné. Donc l'expérience 1 se passe comme ça, on présente au sujet un indice de départ, puis un nombre apparaît. Le sujet doit décider si ce nombre est plus petit ou plus grand qu'une référence donnée. Et ensuite, donc il clique pour donner sa réponse, et ceci nous donne le temps de réaction, reaction time ici, qui est le temps de réaction objectif. Et immédiatement apparaît une ligne sur l'écran, graduée, ici de 0 à 1200, sur laquelle il doit, avec sa souris, cliquer pour indiquer quelle est son estimation subjective de son temps de réaction. Donc on pousse l'introspection, d'une certaine manière, dans ses retranchements, avec une introspection quantifiée, essai par essai. Eh bien, le résultat, c'est que l'introspection des sujets, dans ces conditions, est tout à fait excellente. Ici, vous voyez le temps de réaction objectif, en haut, et le temps de réaction subjectif, en bas. Et vous voyez que deux courbes sont extrêmement parallèles. Ici, elles sont présentées en fonction du nombre qui est présenté comme cible. Les sujets devaient comparer les nombres par rapport à 45. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a cet effet de distance, c'est-à-dire que plus les nombres sont loin de la référence, plus on est rapide pour répondre. Vous voyez ça dans les temps de réaction objectifs, ici, avec une asymétrie. Également, un temps de réponse qui est plus lent lorsque l'information est présentée sous forme de mots, comme le mot 7, ici, par rapport au cas où elle est présentée sous forme de chiffres arabes, comme le chiffre 7. Et vous voyez que toutes ces caractéristiques sont reflétées dans l'introspection des sujets, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Les sujets ont une introspection du temps particulier que ça leur a pris à répondre. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment une introspection ? Peut-être que c'est en fait une sorte de jugement perceptif. Le sujet est en train de juger combien de temps s'est écoulé entre l'apparition du chiffre sur l'écran et le moment où il a cliqué, où il a peut-être entendu le clic qui correspond à sa réponse. Donc ça n'est peut-être pas une vraie introspection. Pour montrer que en fait, ça correspond bien à une vraie introspection, il faut faire une expérience un tout petit peu plus compliquée et montrer les limites de ce phénomène et l'échec de l'introspection lors de l'exécution d'une tâche double. Donc, dans cette deuxième expérience, on demande au sujet quelque chose d'assez complexe. On demande au sujet de faire deux tâches objectives et ensuite deux tâches subjectives. Vous voyez que ce qui apparaît en premier, c'est un son. Le sujet doit juger si le son est haut ou bas. C'est le premier jugement, et ça correspond à un premier temps de réaction. Et puis, avec un certain délai, qu'on appelle traditionnellement SOA, pour Stimulus Onset Asynchrony, donc la synchronie des stimuli, eh bien, apparaît un stimulus visuel, un chiffre ici, et c'est, à nouveau, le sujet doit faire ce jugement de comparaison par rapport à une référence donnée, et ça conduit à un deuxième temps de réaction. Donc, première réponse, deuxième réponse, et ensuite seulement, le sujet va rapporter son introspection sur ses échelles et il va donner une introspection successivement du premier temps de réaction et du deuxième temps de réaction. On lui demande simplement combien de temps vous avez mis pour la première décision, combien de temps vous avez mis pour la deuxième décision. Et bien cette fois-ci, les résultats sont très différents parce que le sujet est complètement aveugle à un phénomène qui est pourtant un phénomène massif de la psychologie cognitive qui s'appelle la période psychologique réfractaire, c'est son nom traditionnel, c'est-à-dire le fait que la deuxième réponse, ici, est ralentie par la première. Sur ce graphe, vous voyez en haut les réponses objectives du sujet, ce sont ces deux courbes ici, en fonction du délai entre les deux stimuli. Et vous voyez que le premier item T1, donc le son ici, on y répond de façon essentiellement constante, peut-être avec un léger ralentissement en fonction du délai entre T1 et T2, mais la plupart du temps c'est constant, aux alentours de 600 millisecondes. Donc, la première décision n'est pas affectée par la présence d'un deuxième item. Par contre, la réponse au deuxième item est considérablement ralentie. Et ça correspond à l'existence d'une sorte de collision mentale à un niveau central. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre deux décisions en même temps. Je vous avais parlé déjà de ce phénomène. Et en particulier, donc, lorsque vraiment T1 et T2 sont présentés à un intervalle extrêmement court, éventuellement simultanément, eh bien, vous voyez que plus on rapproche T2 de T1, plus on ralentit de façon correspondante, donc avec une pente de moins 1 ici, le temps de réaction correspondant. Autrement dit, chaque milliseconde qu'on essaye de gagner en présentant le stimulus T2 avant, elle est perdue dans le temps de réaction du sujet. C'est ça qui crée cette pente de moins 1 dans la courbe ici. Donc c'est un phénomène frappant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Mais comme on ne peut pas faire deux choses en même temps, eh bien on n'a pas une bonne introspection qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Alors vous voyez en bas les introspections des sujets, les réponses subjectives des sujets sont totalement aveugles au fait qu'il y a un ralentissement de la deuxième réponse. Les sujets jugent que dans tous les cas, la première réponse et la deuxième réponse vont à la même vitesse. Il se passe ici quelque chose de curieux. Alors on pourrait dire que les réponses du sujet sont totalement insensibles à tous les paramètres expérimentaux, mais ça n'est pas le cas, parce que si je prends n'importe laquelle de ces cellules ici et je regarde tous les temps de réaction qui ont contribué de façon objective et de façon subjective, je trouve une excellente corrélation. Donc le sujet a une introspection de ce qui s'est passé à un essai donné. La seule chose dont il n'a pas une bonne introspection, c'est cet énorme délai de la deuxième réponse par rapport à la première. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, l'explication qui est proposée, qui repose sur un modèle qui a été proposé au départ par Pachler, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement central. Les deux cibles arrivent peut-être presque en même temps ou avec un délai très petit, mais la décision centrale se conduit comme un goulot d'étranglement. On ne peut pas prendre deux décisions en même temps. Il y a une étape dont on avait vu en partie les bases cérébrales dans le cours de l'an dernier, qui correspond à cette prise de décision centrale, qui ne peut faire qu'une décision à la fois. Et ensuite, les réponses peuvent se dérouler en parallèle. Dans le cadre du modèle de l'espace de travail neuronal que j'avais proposé avec Jean-Pierre Changeux, on pourrait, c'est un schéma vraiment extrêmement grossier ici, mais on pourrait proposer donc qu'il y a un état central de traitement de l'information au niveau du cortex préfrontal et des aires qui lui sont associées, qui correspond, qui est nécessaire, disons, pour le traitement de l'information sur la cible T1, et pendant ce temps-là, la cible T2 est complètement bloquée, elle est mise en attente, et c'est seulement lorsque cette étape centrale est terminée pour T1 qu'on peut passer à une étape centrale pour T2. Ce qui est intéressant, c'est que l'introspection du sujet n'a l'air d'exister que pour les opérations qui se situent à ce niveau central. Et ça correspond assez bien à ce que disent Erickson et Simon, c'est-à-dire l'information qui est en mémoire de travail, qui est en train d'être travaillée, sur laquelle on est en train de prendre une décision, eh bien c'est cette information-là qu'on est capable de rapporter. Donc, dans cette mesure, les données que nous présentons sont tout à fait compatibles, je pense, avec les idées présentées par Erickson et Simon. Alors, dans une expérience plus récente, qui vient de paraître dans Cognition en 2010, avec Sébastien Marty, membre du laboratoire, ou postdoc au laboratoire, comme premier auteur, eh bien, nous avons fait une nouvelle série d'expériences pour réfuter un certain nombre d'interprétations alternatives de ces idées. La première, c'est que peut-être les sujets sont incapables de calibrer correctement leurs réponses et qu'il y a un problème de calibration. Donc, dans ces nouvelles expériences, on calibre les réponses du sujet en commençant par les entraîner avec un son de durée variable, avec du feedback sur leurs réponses. Et vous voyez que les sujets sont très rapidement capables de fournir une estimation extrêmement précise de la durée des sons. Ici, c'est leur estimation subjective. Ici, c'est la durée objective. Et il y a une très bonne corrélation entre les deux. Néanmoins, tout de suite après avoir fait donc ce jugement de la durée des sons, on retrouve les mêmes problèmes d'introspection, et ceci dans une expérience un petit peu plus complexe, je vais terminer là-dessus, qui nous montre qu'on peut pousser l'introspection des sujets vraiment dans ces retranchements. Ici, dans cette nouvelle expérience, nous avons posé pas moins de 4 questions introspectives au sujet après chaque essai d'une tâche double. Donc le sujet fait la tâche double que je viens de vous présenter, jugement du son, jugement du chiffre, avec un intervalle variable entre les deux. Et ensuite, on va lui poser 4 questions. Première question, combien de temps avez-vous pris pour répondre au stimulus auditif? Donc c'est l'introspection du temps de réaction 1. Vous voyez, une échelle de réponse, le sujet clique. Deuxième question, introspection du temps de réaction 2. Combien de temps avez-vous pris pour répondre au stimulus visuel? Bon, jusque-là, c'est la même chose que l'expérience de Coralio et collaborateurs. Troisième question, introspection du délai entre le premier stimulus et le deuxième. Ça, c'est important parce que on va donc demander à la personne combien vous pensez qu'il y a eu de temps entre le stimulus auditif et le stimulus visuel. Si son espace central introspectif est occupé par la décision 1, notre prédiction, c'est qu'elle ne devrait pas être capable de répondre à cette question convenablement, donc au délai très court. Et ça montrerait, d'une certaine manière, qu'il y a une vraie illusion de l'introspection ici. On a vraiment une perte d'information sur le monde extérieur. Quatrième introspection, introspection du temps libre. Alors, l'idée ici, c'est de demander au sujet quel est le délai qui s'est écoulé entre la fin de sa décision concernant le premier stimulus et le moment d'apparition du deuxième stimulus. Il y a évidemment un certain nombre de cas où le deuxième stimulus apparaît nettement plus tard, et donc le sujet a l'impression d'avoir eu un petit peu de temps libre, et après, le deuxième stimulus est apparu. Et on lui demande d'essayer de juger ça, mais on lui demande aussi d'essayer de juger dans le sens inverse. Si le deuxième stimulus est apparu avant que vous ayez fini de prendre votre première décision, utilisez la partie négative de cette échelle pour nous dire que T2 est arrivé, donc trop tôt, je n'avais pas fini mon jugement auditif quand le stimulus visuel est arrivé. et on demande au sujet d'essayer de juger quantitativement ce phénomène introspectif. Alors, les résultats sont très intéressants parce qu'ils cernent extrêmement finement les limites de l'introspection. Premièrement, on réplique totalement les phénomènes qui ont été observés auparavant, c'est-à-dire que dans les temps réaction objectifs, qui sont les deux courbes du haut ici, il y a cet effet de période réfractaire, donc le temps de réponse 1 est constant, le temps de réponse 2 est fonction du délai entre T1 et T2, le délai objectif, et l'introspection du sujet, elle, est que tout ça lui a pris exactement le même temps dans les deux cas. J'ai oublié de vous parler d'un phénomène qui n'est pas expliqué, il y a un problème de calibration, à nouveau des réponses du sujet, qui n'est pas bien compris ici, mais les estimations du sujet sont très en dessous de la réalité. Elles peuvent être corrélées, hein, la corrélation est bonne, essai par essai, mais pour une raison que nous ne comprenons pas, l'introspection de la durée de ces opérations est beaucoup plus courte que leur durée réelle. Peut-être parce que, si je reviens au modèle précédent, hein, l'introspection ne concernerait qu'une étape particulière de traitement de l'information et nous n'avons pas une bonne introspection de la partie perceptive ou de la partie de la réponse motrice. Mais ça, c'est une spéculation. En tout cas, donc, réplication du phénomène précédent. Et maintenant, regardons les deux autres questions. Les sujets ont une introspection partiellement corrélée du délai qui s'est écoulé entre le stimulus 1 et le stimulus 2. Mais si on regarde un petit peu dans le détail, ici, donc, c'est le délai objectif, on voit que pour les délais objectifs les plus courts, la courbe s'écarte radicalement de ce qu'elle devrait être. Vous voyez qu'ici, le délai est de zéro. Donc, c'est simultanéité. Si quelque chose, le jugement de simultanéité devrait être extrêmement précis. Ça devrait être très facile pour les sujets de dire que le stimulus auditif et le stimulus visuel sont survenus en même temps. Or, dans cette situation de tâche double, les sujets pensent qu'il y a eu un délai de l'ordre de 250 millisecondes, en moyenne, entre les deux stimuli. Donc, ils se trompent complètement sur l'apparition du stimulus 2 pendant qu'ils sont en train de faire la tâche 1. Si vous regardez les barres d'erreur, c'est extrêmement intéressant parce qu'on observe un effet qui est l'inverse de l'effet traditionnel à la loi de Weber, c'est-à-dire que normalement, les délais très courts sont jugés très précisément. Mais ici, pendant toute cette période où le sujet est en train de faire la tâche 1, on a une très mauvaise estimation avec des barres d'erreur qui sont très grandes pour juger quand est-ce que le stimulus 2 a été présenté. Et dernière introspection qui était demandée au sujet, l'introspection du temps libre. Alors là encore, on voit à première vue une courbe de corrélation qui est assez bonne, c'est-à-dire qu'en fonction du délai objectif, l'introspection des sujets varie, hein, elle augmente, plus le délai entre T1 et T2 a été long, plus les sujets disent « oui, j'ai eu du temps libre, j'ai eu de plus en plus de temps libre ». Le problème, c'est ce qui se passe dans la partie gauche de la courbe à nouveau. Les sujets ne disent jamais que le stimulus 2 est apparu avant qu'ils aient fini leur décision sur le stimulus 1, alors qu'objectivement, c'est effectivement le cas très souvent. Mais ils n'ont pas conscience que le stimulus 2 apparaît parfois pendant qu'ils sont en train de prendre leur décision. Ils ont en moyenne des réponses autour de zéro, c'est-à-dire qu'ils disent « ah oui, juste quand j'avais fini ma décision, le stimulus 2 est apparu ». Mais ça, c'est une illusion. Alors on peut, sur la base de ces résultats, faire une reconstruction introspective, et je pense que c'est un concept assez intéressant. Sur la gauche, ici, vous avez les événements objectifs d'un essai, c'est-à-dire le temps de réaction 1, qui prend en moyenne ici à peu près 650 millisecondes, et puis le temps de réaction 2, sous forme de cette barre bleue, en fonction du moment où est apparu le deuxième stimulus. Voyez. Donc quand le deuxième stimulus apparaît tout de suite, le temps de réaction 2 est très long. Quand le deuxième stimulus apparaît beaucoup plus tardivement, le temps d'action 2 est très court. C'est le phénomène que je viens de vous décrire. On voit que les réactions 2 prennent un temps relativement constant lorsqu'on est occupé par la tâche 1. Il faut attendre que la tâche 1 soit finie. À ce moment-là, on peut avoir une réponse 2. Donc ça, c'est le phénomène objectif. Eh bien, si on tente une reconstruction fondée sur l'introspection des sujets, on trouve un résultat qui est en partie différent de ce qui s'est passé objectivement. Donc, le temps de réaction 1 est ici. Et dans les autres cours, vous voyez, on a fait la reconstruction de la manière suivante. On a d'abord porté en rouge le temps qui était estimé par les sujets comme le délai entre T1 et T2, donc les deux cibles successives. Donc on a mis une barre rouge à chaque fois. Ici, c'est le paramètre objectif, hein, mais ici, c'est le paramètre subjectif des sujets. Donc on voit bien que même lorsque l'intervalle est de zéro, objectivement, entre T1 et T2, les sujets rapportent de l'ordre de 250 millisecondes de délai. Ensuite, on a porté le temps de réponse des sujets et le temps de réaction 2, hein, introspectif, et on a porté en vert le moment inféré où ils avaient fini la tâche 1, subjectivement, puisqu'on leur demande le délai entre rouge et vert ici, donc on peut porter la position de la barre verte. Donc on voit que les sujets ont une excellente introspection de la fin de la tâche 1, la position de la barre verte est à peu près la même tout le temps, et on finit la tâche 1 à peu près au même moment tout le temps. Ils ont une très bonne introspection de la fin de la tâche 2 et de la durée centrale de la tâche 2. Ils ont par contre une tâche aveugle, je pense que le terme est approprié, une sorte de tâche aveugle de l'introspection, qui est que pendant qu'ils sont occupés à faire une première tâche dans leur mémoire de travail, ils sont absolument incapables de voir qu'un deuxième stimulus est apparu, que ce deuxième stimulus est en attente, que leur décision est donc prolongée d'autant, ils ne voient que ce qui se passe dans leur mémoire de travail central. J'espère que j'ai été à peu près clair sur cette tâche. De toute façon, vous retrouverez les diapositives et les articles correspondants sur le site du Collège de France et sur le site de mon laboratoire. Je vais donc en venir simplement à mes conclusions, une sorte de résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, il est tout à fait clair que notre introspection est massivement limitée. Et il ne faut pas surestimer notre capacité d'introspection. Nous souffrons d'illusions métacognitive, par exemple lorsque nous croyons approcher de la solution d'un problème ou bien lorsque nous pensons avoir suffisamment étudié une question alors qu'en fait on voit qu'objectivement notre mémoire va être mauvaise par la suite. Seule l'expérimentation, et je pense que c'est un point fondamental, l'expérimentation sur nous-mêmes ou sur d'autres cerveaux nous permet d'évaluer nos connaissances. Et je pense que ça c'est un point très important dans le domaine de l'éducation. Si un ministre ou un secrétaire à la Défense vous dit « je sais ce que je ne sais pas et je sais comment il faut améliorer les performances éducatives du système scolaire », si ces connaissances ne sont pas fondées sur une psychologie expérimentale, je serais personnellement très suspicieux parce que si elle est fondée exclusivement sur l'introspection de la personne, eh bien elle risque fort d'être illusoire. Néanmoins, adulte, et nous parlerons, je pense, la semaine prochaine du développement métacognitif chez l'enfant, mais adultes, nous avons développé diverses heuristiques pour juger de notre mémoire. Et la familiarité des problèmes, l'accès à des connaissances partielles font partie des heuristiques, il y en a peut-être d'autres, qui nous permettent d'avoir une certaine, modeste performance métacognitive. Et puis, il y a au moins un cas où notre introspection est tout à fait réelle, c'est lorsque le contenu actuel ou récent de l'espace de travail neuronal conscient est directement accessible à l'introspection, lorsqu'on demande un rapport immédiat ou un rapport avec un très léger délai. Malheureusement, comme on l'a vu dans les cours des années précédentes, de très nombreuses informations échappent à cet espace de travail, d'une part parce qu'il est lent et sériel, c'est l'expérience qu'on vient de voir, donc quand on fait attention à une tâche, on ne peut pas en même temps faire attention à une autre, d'autre part parce qu'il y a toute une série de traitements non conscients auxquels il n'a pas accès. Et ces traitements non conscients, on l'avait vu il y a 2 ans, sont d'une variété absolument phénoménale, depuis les informations auxquelles on ne fait pas attention, aux informations qui sont transitoires, qui sont codées par des processeurs spécialisés, donc l'information reste encapsulée dans un processeur, par exemple l'information grammaticale, on n'a aucune conscience de la complexité des opérations grammaticales dans notre cerveau, ou des informations de reconnaissance des objets, qui sont extrêmement complexes, mais on n'a pas d'introspection. Les connexions cérébrales qui sont responsables de ces computations, on n'y a pas accès, évidemment. Donc, toutes ces séries d'informations font que, naturellement, notre introspection est limitée, et vous voyez qu'on commence à comprendre que notre introspection correspond, finalement, à un traitement tout à fait particulier dans un espace de travail qui peut être délimité par des méthodes cognitives. Je vous remercie de votre attention et peut-être on peut prendre quelques questions en 5 minutes si certains d'entre vous souhaitent poser des questions. Merci.